Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la Vie Française, Libre Journal de la Vie Française, dans lequel ce soir, chers auditeurs, nous allons parler à la fois d'événements exclusifs, nous allons parler également de musique avec Justyna Lovick-Chmielowiec. J'ai prononcé correctement cette fois-ci à la polonaise. Bon, merci. Et puis également, nous parlerons avec Arnaud de Joanny. En deuxième partie donc d'émission, nous parlerons du bal et du retour des bals, puisque ceux-ci sont de plus en plus plébiscités. Y a-t-il un vrai retour à une forme de bal, une forme de vie mondaine, un peu comme autrefois? Alors, tout d'abord, pour commencer cette émission, eh bien, je suis en contact avec Natalia Krasikova, que nous avons déjà reçue. Et Natalia, eh bien écoutez, ce soir nous allons parler d'un événement qui promet d'être unique, qui est de transformer une nuit ordinaire en un véritable film d'espionnage, c'est bien ça?
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour dévoiler un peu de la magie de cette soirée.
Bon, alors... Natalia, quand on entend, vous réalisez un événement qui s'appelle la nuit des agents secrets. Quand on entend agents secrets, on imagine immédiatement le côté glamour, évidemment, mystère, mais surtout on imagine James Bond derrière.
Et c'est exactement cela. Nous avons voulu créer une expérience immersive, élégante et spectaculaire, où les invités auront l'impression d'entrer dans un véritable film d'espionnage.
Alors d'ailleurs, j'ai vu votre slogan, c'est amusant, c'est « plonger dans un film ».
Oui, parce que tout a été pensé dans le moindre détail, le décor, les animations, les costumes, les musiques, les lumières. Dès l'arrivée au château, les invités deviennent les héros de leur propre mission secrète.
Alors, donc ce sont les 00 ou ce sont les héros de leur propre mission ?
Les deux.
Bon, d'accord. Ok.
C'est pas tout choix.
D'accord, entendu. Merci. Alors, vous faites ça, vous l'avez dit, dans un château. Et quel château ?
C'est un lieu absolument magnifique et magique. Un château classé monument historique et à seulement 25 minutes de Paris. C'est un endroit chargé d'histoire avec une architecture spectaculaire et des salons somptueux.
Somptueux. Et comment s'appelle ce château ?
Château de Maréchal de Saxe.
Et c'est dans quelle ville ?
Hier.
Hier. Ah oui, hier dans l'Essonne. Voilà, hier dans l'Essonne, en effet. D'accord.
C'est ça.
Alors, donc, un très beau, ok, parfait, un très beau décor, nous l'avons compris, pour un univers, pour James Bond, évidemment, pour parler de l'univers de 007.
Exactement. Nous voulons un lieu qui fasse rêver immédiatement. Il est super joli.
Bon. Alors, concrètement, comment ça va se dérouler? Comment va se passer cette soirée?
À partir de 18h30, les invités arrivent dans le cours d'honneur du château. Ils seront accueillis sur tapis rouge par des photographes.
Ouais, bah comme au cinéma.
Ouais, très glamour. Et il aura également une exposition d'Aston Martin.
Ah bah Martin, évidemment, Aston Martin, évidemment, ça
oui.
va bien avec James Bond, évidemment.
Ouais.
Bon. Et donc, impossible de faire cette soirée quand même sans Aston Martin, évidemment.
Exactement. Et pendant ce temps, un apéritif musical sera animé par le groupe de jazz.
Ah, très bien. Parfait. Y aura-t-il des animations immersives ?
Oui, plusieurs. Les invités pourront participer à des ateliers portrait cinéma avec un studio photographique. Découvrir un protocole inspiré des viseurs du film d'espionnage et vivre différentes surprises tout au long de la soirée.
Oui, donc finalement, ils vont rentrer complètement dans l'ambiance d'un film.
Absolument. Nous voulons que les invités vivent une expérience et pas simplement un dîner.
Alors justement, parlons de dîner. Il paraît que... Alors, je sais qu'au château du Maréchal de Saxe, j'ai entendu dire qu'il y avait un chef... assez connu, assez célèbre. Je pense que le dîner sera du coup assez exceptionnel, pardon.
Oui, c'est comme on peut dire 100%.
Bon.
Et en plus, le dîner aura lieu dans la galerie Louis XV.
Oui.
entièrement éclairé aux chandelles.
Ah, ça sera joli.
Oui, une atmosphère très élégante, presque hors du temps.
Bon, et le menu a été imaginé par un chef célèbre, je crois même deux. Il y a Valentin Néraudeau, d'ailleurs, que nous avions reçu ici. Valentin Néraudeau, ancien de Top Chef. Et Thomas de Coque, qui est membre de la première association gastronomique mondiale.
C'est ça, c'est bien ça, oui. Et un menu en quatre actes comme un scénario de cinéma.
Ah ben voilà. Alors, racontez-nous.
Nous commençons avec une langoustine grillée à la mangue fraîche et vinaigrette soja agrumée ou agrume. Ensuite, un ceviche de barre de ligne au citron du menton.
Ah oui, ils ont
Menton.
des beaux produits de qualité, oui, barre de ligne,
Oui,
oui.
très raffiné. Puis un suprême de pintade fermière rôtie avec mousseline de carottes nouvelles en gingembre. Et enfin, un dessert autour de chocolat
Ah oui, le chocolat de
laurentissime.
Valrhona, oui, voilà, c'est ça. Oui,
Voilà,
c'est le
grand cru
dessert
et vanille de
signature.
Madagascar.
Oui, pardon, je me permets de vous couper la parole. C'est le dessert signature du chef Thomas de Coque. Il est connu
Ah
pour ce dessert, qui est
oui.
très
Oui, et
gourmand, oui.
chaque fois, je commande ce dessert.
Bon, bah écoutez, voilà, je crois que vous faites déjà rêver, au moins saliver nos auditeurs. Évidemment, il y aura de grands champagnes qui accompagneront ce repas.
Oui, bien sûr,
Voilà, oui.
comment on peut faire sans le champagne, bien sûr.
Bon, alors, pendant ce dîner, les invités auront-ils le privilège de rencontrer au moins des acteurs de cinéma?
Oui, nous aurons l'immense honneur d'accueillir Irka Bonchenka. C'est une James Bond Girl. Elle a été tournée dans un film
Ah oui,
de
avec
James
Roger
Bond.
Moore.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ah oui, d'ailleurs, c'est en effet une figure mythique du cinéma.
Absolument. Elle partagera un moment spécial avec les invités pendant le dîner, et ce qui rendra cette soirée encore plus unique.
Oui, je crois qu'il y aura d'ailleurs d'autres acteurs qui seront présents, mon petit doigt m'a dit. Bon,
Oui.
et après le dîner, les choses deviennent encore plus festives ou...
Oui, à partir de 22 h, le château s'anime entièrement avec deux univers différents.
Oui, c'est-à-dire d'un côté...
Par exemple, dans la galerie Louis XV, avec des valses qui va sélectionner notre team valse.
D'accord. Et l'autre?
Et l'autre, une ambiance rock et musique contemporaine dans le grand commun avec le DJ Inde Lily Julier.
Ah bah écoutez, bah ça c'est sympa. Donc deux salles,
Oui,
deux ambiances. Alors,
c'est
bah,
ça.
qui dit James Bond dit normalement casino.
Mais bien sûr, comment on peut faire
Bon, alors.
dans le salon doré jusqu'à 1 h 30 du matin, une expérience chic et immersive avec des prix à gagner, mais sans jeu d'argent.
Bon, toujours dans l'esprit de James Bond, quoi.
C'est ça.
Oui. Alors, j'ai entendu parler aussi d'expositions autour de l'univers toujours 007.
Oui, on a beaucoup de talents cette fois-ci, comme d'habitude. Une exposition artistique de Natacha Toutain,
Ah ben, qui est connu, oui.
ainsi qu'une exposition et vente d'affiches originales des films James Bond, présentée par l'acteur Julien Vialon.
Ah ben oui, bien
Je dis
sûr, oui,
bien.
tout à fait. Écoutez, c'est parfait. Et à minuit, donc tout se termine. Non.
Et à minuit, pas à minuit,
Bon.
à minuit 07,
Oui.
ça veut dire c'est 007,
Oui.
évidemment. Un feu d'artifice spectaculaire s'est lancé depuis le parc du château sur le thème
Bien sûr, de
de
James
notre
Bond.
soirée.
Voilà.
C'est
Mais
ça.
alors, et après, la soirée se continue jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à matin, si vous pouvez tenir jusqu'à 7 h du matin, vous
Moi,
sentez.
peut-être pas, mais les autres, sans doute. Voilà.
Bon.
Et pour le côté dress code?
Dress code, c'est nous demandons un
Tenue,
dress
pardon,
code
côté tenue.
élégant,
Ouh là là, je me
et
reprends.
tenue.
Côté tenue,
Oui.
oui. Donc, oui, vous dites élégant,
Smoking,
oui.
oui, smoking au costume sombre avec nœud papillon ou avec cravate.
Bien sûr.
Pour les femmes, c'est robe longue aux tenues inspirées de l'univers de agent secret.
Bah, écoutez, ça sera évidemment Donc, l'amour absolu.
Toujours.
Bon. Alors, un mot pratique pour les auditeurs qui souhaiteraient venir ?
Oui. Le château est accessible facilement depuis Paris. Le RER.
Oui.
Avec navette.
Mmh.
Et pour ceux qui souhaitent prolonger l'expérience, nous recommandons le très bel hôtel 4 étoiles, par exemple. Ou aussi, on va voir les navettes et un car qui peut vous faciliter votre chemin vers le château.
Très bien. Bon, alors, conclusion. Natalia, pourquoi faut-il venir à votre soirée la nuit des agents secrets?
Parce que ce n'est pas seulement une soirée, c'est une expérience rare. Une parenthèse hors du temps où élégance, musique, gastronomie et mystère se rencontrent. Une nuit où chaque peut rêver, danser et devenir les héros de son propre film.
Le 00 de son propre film. Bah écoutez, merci beaucoup Natalia. Peut-être un site internet pour ceux qui voudraient venir donc à votre soirée. C'est le 6 juin, c'est ça, j'ai noté, 6 juin au château du Maréchal de Saxe, la nuit des agents secrets. Donc c'est un site internet.
CercleDeFrance.com.
CercleDeFrance.com.
Là-bas, vous pouvez trouver toute information. Et le tenu, et le menu, et les horaires, toute information.
Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, Natalia. Donc, la nuit des agents secrets, le 6 juin prochain, CercleDeFrance.com. CercleDeFrance.com. Merci beaucoup, chère Natalia. Et puis, vive succès à votre soirée de la nuit
merci
des agents secrets.
Voilà. Oui. À bientôt.
Merci, à très bientôt.
Au revoir.
À très bientôt, merci. Donc, cercledefrance.com, chers auditeurs. Alors, sans transition, donc, je vais réessayer de prononcer de façon correcte à la polonaise, s'il vous plaît, notre invitée Justyna Lovik. Rien que de vouloir le prononcer correctement, je le prononce pas bien. Szmielowiec.
Très bien.
Ah, ouf, chouette alors, merci. Alors, Justyna, j'ai voulu vous recevoir pour parler de musique, de parler de Chopin. Et il se trouve évidemment que l'on devine avec un nom comme celui-ci que vous êtes d'origine
polonaise.
Tiens, ça alors, voilà. Et donc, Chopin, la Pologne, évidemment, ça ne fait qu'un. Donc, vous recevoir, car vous avez un très beau parcours et on vous a déjà entendu à la radio, vu à la télévision.
Oui, exact.
Alors, vu à la télévision, pouvez-vous nous rappeler le contexte
hein,
et la petite anecdote ?
Ma première télévision française, c'était le programme Vivant Dimanche avec Michel Drucker.
Rien que ça, en plus. Voilà, donc, déjà, ça commençait bien.
Ça commençait bien, oui.
Alors, racontez-nous cet événement. Pourquoi avez-vous été invité dans l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker ?
C'était en lien avec le chanteur Christophe Bevilacqua, que j'ai connu. J'ai collaboré avec lui. Je l'ai enseigné le piano pour préparer sa tournée.
Vous avez enseigné le piano à Christophe ?
Oui.
Eh bien, écoutez, c'est quand même assez remarquable, ça.
C'était en 2013. Oui. Il voulait donner une tournée qui s'appelait Intime.
Oui.
Il voulait s'accompagner lui-même au piano. Mais il ne se sentait pas vraiment prêt de le faire, d'être sur scène tout seul, juste avec le piano.
D'accord.
Et chanter, en plus s'accompagner. Donc, il m'a demandé de lui donner quelques cours de piano pour améliorer sa technique. Et c'était bien réussi. Et pour me remercier, il m'a proposé de jouer en première partie de ce concert, de cette tournée. Et en première partie, c'était très étonnant parce que j'ai joué Chopin, j'ai joué Liszt, donc complètement les morceaux classiques.
Oui, oui.
Le public, il était
un peu
désorienté au début.
Mais oui, parce qu'il ne s'attendait pas du tout.
Il ne s'attendait pas du tout. Donc au début, ils étaient un peu désorientés. Mais après, c'était une vraie écoute. Je trouvais que c'était très original de sa part. Et après l'entracte, bien sûr, Christophe... il entrait avec ses chansons.
Mais écoutez, donc, c'est intéressant parce qu'il y a même un côté quelque part pédagogique d'inviter comme ça les spectateurs à découvrir de la musique classique.
Oui.
C'est vraiment joli.
Aussi, de toute façon, Christophe, il aimait beaucoup les idées originales.
Oui.
Comme ça. Il aimait bien un peu surprendre les gens. Et parfois, il préparait un petit mot avant que j'entre sur scène. Il y avait un petit mot qui passait comme ça. Christophe, il disait quelques mots dans les haut-parleurs pour préparer un peu le
Le
public.
public,
Parfois, non,
en
parfois
disant quoi?
directement. J'étais dans les loges, je ne sais pas exactement ce
Ah.
qu'il disait, mais il disait que vous allez entendre maintenant quelqu'un, une pianiste, quelque chose d'assez mystérieux.
Ah.
Et après, j'entrais sur scène.
Ah,
Mais
écoutez,
parfois,
c'est.
c'était vraiment direct,
C'est
sans
amusant comme
aucun mot.
introduction, c'est quand même
Mais
génial. Ouais.
ils aimaient
Ouais.
bien. De toute façon, il était très original comme personnage. Il avait des idées originales. Donc,
Vous en parlez
oui.
au passé?
Oui, parce qu'il est
Mais
décédé.
oui, je sais bien. Mais
Ouais.
bon, il est toujours là quand même pour vous.
Il est toujours là,
Bah
oui.
oui,
Ouais, il est
ouais.
toujours là, dans l'esprit.
Ouais,
Ouais,
ouais.
ouais.
Alors, donc je voudrais que l'on parle également de votre intervention à la radio.
Oui.
Vous avez été invité par
À la radio.
plusieurs.
Oui, j'étais invitée aussi. C'est à la radio FIP et à la radio Inter,
Oui.
France Inter. Et aussi, quand j'ai joué des concerts à Tahiti, j'ai été invitée aussi
Alors,
à la radio à Tahiti.
je vais faire une confidence à nos auditeurs et à vous également. Vous savez que ça m'a touché. Parce que je suis né là-bas, mais je n'y suis jamais retourné. Voilà
Incroyable!
voilà ma grande frustration. Et la technique, heureusement, me regarde les larmes aux yeux en me disant, mais oui, le pauvre Laurent! Oui, voilà, elle m'a fait rêver. Elle a joué à Bora Bora, à Moréa, dans les endroits qui nous font tous rêver. Et vous avez joué là-bas. Quel bonheur! Est-ce que vous y êtes
Oui.
allé vraiment pour travailler? Moi, je me pose la question.
Je suis restée assez longtemps pour
Oui,
pouvoir
voilà, bah
travailler
oui, bah bien
et
sûr.
profiter aussi
Bien
du
sûr, évidemment,
paysage.
voilà, ouais.
Oui.
Bon,
C'est
écoutez,
incroyable. Quelle coïncidence
absolument,
incroyable.
c'est une coïncidence assez amusante. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes venu à la musique classique?
J'étais inspirée, je pense que quand j'avais 5 ans, j'ai déjà su. J'étais sûre et certaine que je veux devenir une artiste classique.
C'est assez amusant parce que tous les artistes que j'ai reçus ici, que ce soit Daria Davidoff, que ce soit Caroline Murat, Caroline Effner, que vous connaissez, que ce soit vous, toutes ces personnes, j'allais dire les plus grands virtuoses, ont tout ce point commun d'avoir eu une révélation déjà tout petit. C'était ça.
Oui, je ne peux pas expliquer.
Oui.
C'était une certitude vraiment. Après, je sais que mon père, il jouait un peu en amateur de l'accordéon. Et c'était
Oh, ça n'a rien
l'accordéon
à voir, oui.
qui avait sur un côté, il y avait un petit clavier. C'était un
Ah,
accordéon, pas avec des
d'accord,
boutons, mais avec un petit clavier.
oui.
Donc, dans mes premiers souvenirs, quand il posait cet accordéon, j'étais petite et j'essayais de
De
toucher
toucher déjà les
des petits
notes,
claviers, des notes.
oui.
Mais il n'y avait pas de son parce que l'accordéon, il faut le faire
Bien
bouger pour.
sûr.
Mais c'était le premier souvenir. Mais je ne peux pas expliquer. C'était vraiment une idée certaine. J'allais devenir une artiste classique.
Oui. Donc, moralité, dès le départ, vous vous êtes dit, je veux être pianiste, ça sera ça mon futur.
Oh, dès le
Ou alors
départ,
c'était la musique.
c'était d'abord je rêvais d'être une cantatrice, après une violoniste, après une
Ah,
flûtiste.
quand même, oui, d'accord.
Donc,
Oui, il y a
mais
eu le
toujours
livre,
la musique
toujours la
classique,
musique, bien sûr.
et la musique classique
Oui,
toujours.
oui.
Et au final, c'était le piano. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai vu un deuxième souvenir de mon enfance. J'ai vu à la télé, je me souviens d'avoir vu à la télé, c'était un concert, une diffusion d'un concert de Martha Argerich avec un orchestre. Et ça m'a frappée. On voyait ses mains, on voyait sa virtuosité, elle était incroyable et ça m'a resté dans la tête et je me suis dit, bah, je veux faire la même chose.
Et ça, vous aviez quel âge?
J'avais entre 6 et 7 ans.
Ah oui, quand même. Donc oui, c'était encore
Ouais.
très tôt.
Ouais.
Oui. Et là, vous n'avez plus hésité entre le violon,
Non.
le chant,
Ah,
etc.
je plus hésité du tout.
Ah
Ouais.
oui, donc quand vous
Ouais.
avez hésité, ça a duré un an ou deux, quoi, pas plus,
Non, pas plus.
à l'âge de 6 ans. Donc,
Ouais.
écoutez, c'est quand même merveilleux de savoir,
Ouais.
voilà,
Ouais.
déjà ce que l'on veut faire. Donc, après, bah, les plus grandes écoles de Pologne,
Après, l'école.
puis de France.
Oui, après
Alors.
l'école, comme pour tous les enfants, l'école de musique, le conservatoire. Après le conservatoire, les études, oui, en Pologne, à Łódź.
Oui.
Et ensuite, je continuais les études à Paris. à l'école normale et à la Scola Cantorum.
Alors, nos auditeurs doivent se dire, c'est très bien, elle nous parle de musique, mais comment joue-t-elle? Donc, chers auditeurs, nous allons vous prouver que c'est une virtuose, et pour cela, une femme très talentueuse, et pour cela, eh bien, nous allons écouter tout d'abord Franz Liszt, les Jeux d'eau à la Villa d'Este. Peut-être une présentation de cette œuvre avant qu'on ne l'écoute?
Oui, je peux dire quelques mots. Cette œuvre, elle est vraiment merveilleuse. C'est un chef-d'œuvre de Franz Liszt. Franz Liszt, il aimait beaucoup voyager en Italie.
Oui.
Et il séjournait à la Villa d'Este, qui se trouve à côté de Rome.
Oui.
Et il était inspiré parce que cette villa, elle a un immense jardin dans lequel il y a plein de bassins, surtout des fontaines. Et c'est impressionnant, les cours d'eau, les jets d'eau. Il était impressionné par ça et il a composé cette œuvre.
Très bien. Écoutez, nous allons l'écouter tout de suite, chers auditeurs. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Alors, Justina Levic, pour les personnes qui voudraient vous écouter sur Internet, vous suivre, vous avez un site Internet?
Oui, j'ai un site Internet, justinalovic.com.
Alors, on va peut-être...
L-O-V-I-C.
Alors, peut-être Justina, J-U-S-T-Y,
voilà. Y-N-A-L-O-V-I-C.
Tout attaché. On peut peut-être le rappeler une deuxième fois, s'il vous plaît?
JustinaLovic.com.
Justina Levic avec un Y, Justina Levic. Alors, donc vous arrivez en France, vous vous dites, tiens, pourquoi avoir choisi la France? Et vous êtes dit, je vais faire mes études en France. Pourquoi?
Alors, ça aussi, c'est une
d'abord,
histoire...
D'abord, est-ce que vous parliez français déjà à l'époque?
Non, je ne parlais pas le français.
Ah, en plus?
Je suis arrivée et je ne comprenais rien.
Oui.
Alors, pourquoi la France? Je pense que déjà, il y a une grande amitié entre les Polonais et les
oui,
Français.
Oui.
Vraiment, historiquement parlant, c'est... Oui, avec Napoléon...
voilà. Vous savez que dans l'histoire, c'est le seul pays avec lequel on n'a pas été en conflit.
Oui,
voilà, d'Europe,
oui,
hein, d'Europe,
c'est
voilà.
Vraiment, c'est une grande histoire d'amitié.
Oui, exactement.
Mais après, bien sûr, la France, je pense qu'elle fait rêver beaucoup de monde. Et pour le polonais, la langue française, elle est tellement belle.
Oh, mais c'est gentil, c'est pas l'italien pour vous?
Non, c'est vraiment la langue française qui fait rêver.
Bon, tant mieux.
Donc, j'ai toujours voulu voir la France et connaître la France. J'ai été invitée une fois à jouer un récital à Paris. Et c'était la toute première fois où j'ai fait un voyage à Paris et j'ai été vraiment éblouie. J'étais à côté des Champs-Élysées et là, j'ai vu la Tour Eiffel. Donc, bien sûr, c'est cliché, mais c'est pour les étrangers, ça fait toujours rêver, vraiment.
Bah, écoutez.
Donc, après, j'avais une opportunité. Je connaissais un couple d'amis qui sont polonais, qui habitent à Nancy.
Oui.
Et je donnais les cours de piano aussi à leur fils. Il a réussi des examens au conservatoire. Et ensuite, ils m'ont dit que je pouvais venir chez eux la première année. Ils m'ont hébergé. Ils m'ont beaucoup aidé. En fait, c'est grâce à eux que j'ai pu rester en France et venir en France. Parce que je ne connaissais pas la langue.
Oui, mais c'est à Nancy.
C'était à Nancy, la première année, oui.
Oui, mais vos études étaient à Paris.
Oui, je prenais un TGV.
Tous les jours?
Non, pas tous les jours. Non, non. Une fois ou deux fois. Non, une fois par semaine.
Oui, oui. D'accord. Oui. Oui. Oui, parce que quand même. Bon. Et donc, vous vous êtes dit, après, je vais rester en France?
Et oui, tout de suite, mais je le savais. Je le
savais. Vous le saviez?
Ah, oui, je le savais.
Vous
savez,
vous fonctionnez avec des certitudes. C'est magnifique,
je
ça.
Je le savais. Je vais juste remercier, justement, mes amis, Madame et Monsieur Rogalski. Voilà.
Qui sont toujours, d'ailleurs, dans la même
qui
région?
Qui sont toujours à Nancy.
Oui.
Oui.
Alors, pour continuer à illustrer un peu nos propos, je vous propose maintenant d'écouter Frédéric Chopin et une valse en do dièse mineur. Vous allez nous en parler un petit peu, opus 64, numéro 2.
Oui, cette valse, je l'ai jouée justement à l'émission Vivement Dimanche. On peut voir ça sur ma chaîne YouTube. Il y a la vidéo de cette émission.
Avec Christophe.
Oui.
Voilà.
Oui. Et l'histoire de cette valse, elle était composée en 1847. Et il faut savoir, Chopin, il est mort en 1849, donc
oui.
2 ans avant sa mort.
Oui.
Il a composé cette valse. Et c'était lors de la rupture avec George Sand.
Oh là, oui.
Donc après près de 10 ans ensemble, ils ont rompu et je pense qu'émotionnellement, c'était très très dur pour Chopin. Et en plus de ça, il était déjà très très malade, très affaibli, isolé. Et cette valse, elle est très mélancolique, nostalgique, avec une partie très sentimentale au milieu.
Et pourquoi avoir choisi cette œuvre à jouer pour Christophe?
J'aime bien,
pour le chanteur.
J'aime beaucoup cette valse, c'est très romantique. Et Christophe aussi, il était très romantique.
Et Christophe est très romantique, oui.
Ouais.
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 Ouais. Donc c'était voilà. Vous l'aviez prévenu avant de ce choix ou vous lui avez fait la surprise?
Il m'a laissé la carte blanche. Il était toujours un peu comme ça. Il faisait beaucoup confiance. Il donnait vraiment la confiance. Oui. Il m'a dit, ouais, tu joues ce que tu veux.
Bon, oui. C'est parfait. Et donc, c'était vraiment une amitié très forte entre lui et vous?
Oui, c'était ça. Et c'était le piano qui nous a liés parce qu'il adorait, en fait, le piano. Il était très sensible au son du piano et à la qualité aussi du piano. Il aimait bien Steinway & Sons. Il avait chez lui, d'ailleurs, aussi un piano. Il changeait aussi des pianos pour rechercher la qualité du son qui lui plaisait. Et il aimait aussi d'écouter la musique classique et le piano classique.
Mm-hmm.
Donc, quand il était chez lui, il écoutait parfois des morceaux classiques comme ça. Donc, cette passion pour la musique et pour le piano nous a liés.
Oui, et elle reste là toujours vivante, puisque voilà, on peut l'écouter, évidemment, grâce à sa discographie, le retrouver. Nous allons écouter donc la valse en do dièse mineur de Frédéric Chopin. Merci. chers auditeurs, difficile de couper. J'ai l'impression que d'abîmer l'œuvre. C'est magnifique votre interprétation. Merci. De Chopin. Je la trouve. Vous avez la nuance, vous avez la souplesse, vous avez l'élégance. C'est magnifique. Franchement, bravo. Je suis encore plus fanat que votre interprétation de Chopin, encore plus que de Liszt. Alors, on a un auditeur qui nous écrit « Je vous remercie pour cette pianiste si talentueuse. Cela me rappelle mon ami polonais Miloš Magin. »
Ah oui.
Voilà, interprète exceptionnel de Chopin, Grand Prix de Varsovie, de Vienna au Portugal, entre autres. Vous évoquiez Bora Bora, il y est décédé.
Oui.
Voilà, je ne connaissais pas cette anecdote qui est très jolie. Merci, cher auditeur.
Oui, merci. Merci.
Alors, je voudrais parler, on a parlé de prix. Vous en avez eu également des prix?
Des prix, oui, à Vienne, c'est le prix
voilà,
culturel.
Voilà, absolument, oui, c'est ça dont je voulais que nous parlions. Mm. Alors, vous êtes produite, nous avons parlé de Bora Bora, vous avez quand même beaucoup voyagé à travers le monde. Vous êtes produit dans un grand nombre d'orchestres philharmoniques. On peut peut-être en citer quelques-uns.
Parcours. Non, j'ai pas encore justement.
Alors, moi, j'ai vu que vous aviez joué dans un orchestre. Aurais-je dit une erreur? Il faut que je reprenne les informations que j'avais. Vous avez joué. Bah, pouvez nous rappeler un peu votre parcours.
Alors, j'ai joué plutôt en solo.
Oui.
Vraiment, la plupart du temps en solo. Et j'aime beaucoup aussi jouer avec d'autres instrumentistes, avec le violon, avec les chanteurs.
Donc, vous avez toujours joué. D'accord. Alors.
Oui.
Oui. D'où ma confusion.
Toujours plutôt des petits ensembles.
Des petits ensembles. Oui. Oui. Et quels sont vos projets? Alors, je sais que vous attendez un heureux événement.
Oui.
Voilà. Donc, évidemment, ça va ralentir un petit peu les choses.
Oui.
Mais quels sont vos projets? Comment est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver dans le futur?
Alors, cet événement, c'est pour bientôt, c'est pour le mois de juin.
Oui.
Donc, je prendrai quelques mois de congé, évidemment. Et après, je vais revenir. Et je reste toujours à Paris. Donc, suivez-moi sur Facebook ou Instagram ou sur mon site internet. Là, je mets toutes les actualités. Mais j'aimerais bien aussi faire encore d'autres enregistrements, de faire peut-être un album, enregistrer un album. Donc, ça sera après cette
heureuse nouvelle arrivée.
Cette heureuse nouvelle, oui.
Oui, alors moi j'ai confondu parce que vous avez interprété le rôle de Chopin dans un spectacle théâtral franco-polonais à l'occasion du 200e anniversaire du poète. Voilà.
Oui, je participe aussi, j'aime bien aussi participer à des projets qui sont un peu, qui sont un peu des spectacles où on peut mélanger un peu la musique avec la parole. Aussi.
Et pour terminer, je voudrais rappeler que vous avez également, vous êtes compositrice.
Je suis pas compositrice, mais j'ai eu quand même l'opportunité.
Co-écrit.
Co-écrit, voilà, avec Christophe, c'était pour un film. On a co-écrit un thème.
Arrête ou je continue.
Oui.
De Sophie Filière.
Oui.
Voilà, et vous avez participé même à l'enregistrement de la bande originale du film.
Galveston de Mélanie Laurent.
Bah, écoutez, oui. Parfait.
J'ai interprété au piano justement une partie du thème dans ce film.
Très joli. Alors, écoutez, je vous propose, chers auditeurs, de retrouver Justina Lovic à travers donc, son site internet, Justina, Justyna, Lovic, LOVIC.com. Et je vous propose, ma chère Justina, c'est passé très vite avec vous, de terminer avec un court extrait de Frédéric Chopin, Fantaisie impromptue?
On peut, oui.
Parfait, merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la Vie Française, Libre Journal de la Vie Française, dans lequel j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Arnaud de Joigny. Bonjour Arnaud.
Bonjour cher Laurent.
Alors Arnaud de Joigny, faut-il le rappeler à nos auditeurs, puisque maintenant vous commencez à être presque un habitué de nos émissions. Arnaud de Joigny, vous êtes le président de l'association, d'une grosse association très importante qui s'appelle Carnet de Bal.
Tout à fait, merci chers auditeurs de nous écouter. Oui, Carnet de Bal, c'est une association, c'est l'association de danse historique, c'est celle qui, depuis 1989, existe, reconstitue les danses à l'origine uniquement 19e, et qui, depuis 2012, s'est fortement généralisée sur toutes les époques, et donc maintenant, nous allons depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la libération de Paris.
Alors, vous l'avez dit, Carnet de Bal, c'est une grosse association, vous réalisez beaucoup d'événements. Je voudrais que vous puissiez, pour donner un peu une idée à nos auditeurs, que vous nous donniez, allez, une palette des lieux où vous avez l'habitude de danser. Faites-nous rêver un peu.
Nous avons vraiment beaucoup de chance et nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes en France et qu'en France, nous avons un patrimoine exceptionnel, ce qui fait que nous dansons dans des lieux incroyables, ne serait-ce que ce week-end. Nous avons dansé à l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, où l'on a donné un superbe bal. Nous avons été...
Oui.
À Maison Lafitte, au château du comte d'Artois Charles X, mais nous dansons également au château de Versailles, nous dansons au château de Pierrefonds, nous avons dansé au château de Fontainebleau, et puis nous dansons grâce à vous, cher ami, à l'Intercontinental, qui a peut-être la plus belle salle, enfin en tout cas, pour l'impératrice Eugénie, il disait, nous nous sentons comme à la maison, en parlant de cette salle, une des plus belles salles de la capitale, nous dansons vraiment absolument partout, nous avons dansé à l'ambassade de Grande-Bretagne, nous avons dansé sur la Tour Eiffel, nous avons dansé absolument partout.
À Versailles, notamment pour ce fameux bal qui s'appelle...
Le bal du siècle que nous animons maintenant depuis sa création, mais également pour les fêtes galantes. Et puis nous allons également danser pour le dimanche Marie-Antoinette à Trianon, et puis pour les fêtes américaines qui se prévoient pour juillet. Donc,
extraordinaire.
Oui.
Plus d'un grand nombre de films.
Également.
Ah voilà, donc vraiment, l'association de référence pour les bals historiques. Mais comment est né Carnet de Bal ?
Et où, comment elle a évolué ? En tout cas, à l'origine, elle a été créée par un petit groupe d'amis, et en particulier un sujet du roi des Belges, ça me plaît toujours.
Ah, c'est joli comme
oui,
tout.
Oui. C'était un non-français qui était passionné de culture française et qui voulait refaire vivre un patrimoine. Parce que nous sommes là sur du patrimoine immatériel, ce n'est pas simplement de la danse. C'est également du costume, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est toute une culture à la française qui s'est développée pendant des siècles, qui a monstrueusement disparu au cours du XXe siècle et qu'ils se sont dit qu'il fallait refaire vivre. Et c'est vrai que depuis 15 ans, la société est en train de changer, nous le remarquons. Eh bien, si vous me permettez l'expression, c'est une activité qui a le vent en poupe parce que nous recherchons toutes ces valeurs que transportait le bal et qui ont disparu au XXe siècle.
Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui rentrent dans des associations telles que la vôtre et qui participent, qui aiment participer à ces, voilà, j'allais dire recréation, renaissance de bal historique.
Oui, c'est assez incroyable. Un tiers de nos adhérents sont des étudiants ou des universitaires.
Ouais, ce qui est beaucoup.
C'est énorme.
Oui. Ils recherchent quoi à travers, finalement ?
Eh bien, je pense vraiment qu'ils viennent chercher ce que la société du XXe siècle a transformé. On est passé d'une société qui était très collective. Nous vivions en groupe, nous vivions en corporation, nous vivions en groupe de reconnaissance, on va dire. Et tout le XXe siècle a fabriqué du jeu. On est passé du nous au jeu très facilement. On s'est mis à des jeux de consommation, aux jeux électroniques. On s'est mis à la télévision. On s'est mis qu'à des activités où vous vous retrouvez tout seul. Et très, très doucement, on est allé chercher le sentiment et la réception immédiate du plaisir. Vous regardez une émission, ça vous plaît, vous êtes content. Vous avez une activité de jeu vidéo, paf, paf, ça vous plaît, vous êtes content. Et quelque part, on a quelque chose d'un peu sec. Hein, une fois que ce plaisir immédiat, cette sensation immédiate, vous l'avez passé, et bien c'est passé. Alors que là, on est sur l'appropriation de code, sur le travail, sur l'appropriation d'une pratique ou d'une collectivité que l'on assimile. Et le plaisir va venir quand vous-même vous transformez ce plaisir. Quand vous arrivez dans un bal et que vous commencez à valser, vous avez le sentiment immédiat, c'est merveilleux, mais c'est encore mieux. Une fois que vous commencez à connaître les codes, à savoir comment on pratique sa valse, comment est-ce que votre quadrille, votre jeu de société prend et que vous pouvez vous-même le transformer et vous divertir avec les autres en société, vous repassez à ce moment-là du jeu au nous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une activité que vous avez par rapport à vous-même et à la musique, c'est une activité que vous avez par rapport à vous-même et à la musique et avec un partenaire et avec un contre-partenaire et avec toute une société qui est autour de vous. Et donc notre petite société qui est devenue extrêmement individualiste, malheureusement au cours du XXe siècle, on en connaît les limites à l'heure actuelle, et notre société, en particulier plus jeune, cherche les repères et cherche leur société. Quelle est leur société? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, ils retrouvent des réponses. Ils retrouvent une activité de groupe. Ils retrouvent quelque chose qu'ils aiment faire ensemble. Et le plaisir est complet. Vous avez à la fois le plaisir immédiat et en même temps la transformation et l'assimilation d'une culture.
Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des balles. Avant de vous poser ma question suivante, je voudrais simplement que vous rappeliez un peu l'importance que pouvaient avoir les bals, et notamment la France à travers ces bals sous Napoléon III, et même après, puisqu'il en est resté quelque chose.
Et même avant, je vais commencer même plus tôt. Ah. C'est assez incroyable. Alors Napoléon III, c'est l'apothéose, c'est la fête impériale, c'est celle que l'on aime, c'est celle que l'on imagine, c'est celle que les étrangers qui viennent à Paris rêvent encore de voir. Mais depuis le début, l'histoire de la France est indissociable de l'histoire de la danse et du bal. Nous sommes avec Louis XIV, le créateur de l'Académie royale de musique et de danse, donc de musique principalement et de danse ensuite, mais c'est bien l'activité politique, l'activité sociétale que Louis XIV va mettre en valeur tout de suite, que le monde entier va nous copier. On enseigne on enseigne la danse en français dans le monde entier, c'est bien parce que c'est une pratique qui est française, et elle va doucement évoluer pour arriver, comme vous le faisiez remarquer, sous Napoléon III, avec une époque où elle se démocratise complètement. Et elle se démocratise avec, quelles que soient les couches sociales de la société, qui dansent en même temps la même chose, et qui font société, qui prennent vraiment le terme de faire société ensemble, sur des musiques qui sont merveilleuses. On parle là, sous le Second Empire, d'Offenbach, mais vous allez avoir Gounod, Meyerbeer, des musiques que l'on a oubliées, mais dès que vous les entendez, vous les reconnaissez, intuitivement, vous savez, c'est dans notre inconscient collectif que ces musiques existent. La descente aux enfers de Jacques Offenbach, tout le monde la connaît, on ne connaît pas le titre, on ne sait pas ce que c'est, mais quand vous l'entendez, vous savez ce que c'est. Et danser là-dessus, danser tous ensemble là-dessus, c'est le grand, grand, grand moment de la fête impériale, et c'est ce que les gens aiment. C'est cette culture à la française, débordante, élégante, festive, c'est ça tout pour soi.
Et alors, vous m'aviez raconté, sauf erreur de ma part, qu'il y avait dans tout le monde entier, une ouverture.
Ah, j'adore cette histoire, celle de la Saint-Simonienne, voilà. Ou du galop, ou de la finale. Il faut se dire que dans les années 1860, alors, sous le Premier Empire, va apparaître une nouvelle danse, que l'on va appeler le quadrille. Alors, c'est juste un petit peu le Premier Empire, en fait, je ne vais pas vous embêter avec les détails complets, mais cette danse-là va être transformée en quadrille, donc c'est une nouvelle contredanse à la française, hein, c'est plus républicain, plus moderne de dire quadrille que contredanse, sous forme de 5 figures, et la cinquième va prendre un peu de temps à s'établir, et sous le Second Empire, en 1860, le quadrille est positionné, et elle va faire le tour du monde. C'est-à-dire que depuis l'Empire de Chine jusqu'à l'Empire du Mexique, hein, j'adore cette expression, on danse le quadrille français. On prétend même qu'une danse sur deux dans le monde est un quadrille français. On danse un quadrille français, une valse, un quadrille français, un autre quadrille français, un quadrille français, une polka, on n'arrête pas. Et sur cette cinquième figure, l'empereur Napoléon III, qui est un petit peu jaloux, n'apprécie pas que l'impératrice danse dessus. Parce que dans cette danse, il y a un changement de dame, et la dame passe dans les mains du cavalier d'en face. Donc, l'impératrice va faire une danse rien qu'à elle, une chorégraphie qui est faite pour elle, dans laquelle elle ne passe pas dans les bras du monsieur d'en face. Et c'est vraiment propre à Napoléon III, hein, il était particulièrement jaloux. Et cette musique nécessite 8 mesures de plus. 8 mesures de plus que celles que tout le monde danse. Ce qui fait que, traditionnellement, l'on joue systématiquement la cinquième figure avec 8 mesures de plus, dans lesquelles tout le monde attend, au cas où l'impératrice des Français serait dans la salle et aurait à commencer sa propre figure. C'est-à-dire que même en Chine, quand vous dansiez le quadrille français, vous aviez 16 mesures à attendre, en disant, on ne sait jamais, si l'impératrice est là, elle fait son introduction, elle peut danser, et après tout le monde démarre. Et ça dénote toute l'importance culturelle que la France a eue. Et ce quadrille français, c'est assez incroyable, va encore durer un siècle. C'est-à-dire qu'une fois que l'Empire va tomber, c'était la danse officielle de l'Empire, elle va devenir la danse officielle de la présidence de la République, elle va durer sous la Troisième République, sous la Quatrième République, et quand la Cinquième République arrive, malheureusement, Tante Yvonne n'aime pas danser et ne voudra pas le pratiquer. Ce qui fait que le général de Gaulle va retirer du protocole de la présidence l'ouverture du bal par le président de la République avec un quadrille français. Mais sinon, jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, ce quadrille-là était celui de la présidence de la République.
Mais alors, ça veut dire que du coup, c'était la femme du président qui dansait, qui remplaçait l'impératrice, ou il n'y avait personne qui dansait pendant ce...
La première dame dansait.
La première dame dansait. D'accord. Ah, c'est amusant, ça.
Et donc, la première dame...
Mais uniquement en France. C'est-à-dire que, si, par exemple, si dans les autres pays, la première dame ne dansait pas.
Ah, si, si.
Ah, si, la première dame dansait en représentant l'impératrice Eugénie, alors. Dans les autres pays.
Dans les autres pays, il ne faisait pas le quadrille français en ouverture de la présidence, il le faisait en tant que quadrille de plaisir.
Oui.
Alors que nous, officiellement, c'était le quadrille pour ouvrir le bal de la présidence.
En tant que plaisir, qu'est-ce qu'il faisait pendant ses premières mesures ?
Ah, rien, il patientait.
Il n'y a personne qui remplaçait l'impératrice Eugénie,
On patiente, tout à fait.
On patiente, d'accord.
On reste debout, on ne s'allume même pas, on attend droit.
Donc il n'y a qu'en France où on ne patientait pas, en quelque sorte, jusqu'à la Ve République.
Si, également. Enfin, sauf que l'impératrice dansait seule. Il n'y avait que l'impératrice qui dansait.
Oui, j'ai compris. L'impératrice dansait, mais après, justement, une fois qu'il n'y avait plus l'impératrice, est-ce que la première dame remplaçait l'impératrice?
Ah oui, tout à fait. C'était ça ma question. Elle faisait la même figure, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Mais il y avait donc en France qu'il y avait cette même figure qui était refaite.
Exactement.
Ah, c'est extraordinaire. Bon, c'est un beau privilège.
Ah oui, c'est incroyable. Parce que c'est un gâchis énorme d'avoir arrêté cette tradition.
Oui, bon.
Surtout qu'on voit encore des vidéos, alors la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth n'est plus là, mais on la voit également, elle, danser des quadrilles écossais, des quadrilles irlandais encore, donc c'est quelque chose qui aurait pu être pratiqué en France.
Ouais.
Bon, de nos jours, on ne le pratiquerait plus du tout, hein. Je pense que si ça n'avait pas été Tante Yvonne, il n'aurait pas survécu après.
Alors justement, est-ce que de nos jours, les bals n'ont-ils pas disparu ?
Ah, alors, il y a eu cette grande catastrophe, hein. Les bals ont disparu, surtout après 68, hein. On sait très bien qu'on ne les voit plus du tout. Mais là, nous avons une chance incroyable, c'est qu'ils sont en train de revenir. Et ça redevient fortement à la mode. Tous les week-ends, vous avez des bals qui se dansent et où les gens se bousculent pour venir danser. Tous les bals sont pleins. C'est une chance incroyable. Les gens ont envie de danser, de retrouver ces codes, cette société qui s'amuse, qui fait société ensemble, qui se divertit ensemble. Et c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Il faut en profiter et le faire perdurer.
Donc pour vous, il y a une vraie renaissance à ce niveau-là.
Absolument. Je ne vous l'aurais pas dit il y a 5 ans, mais alors là, j'en suis absolument persuadé.
Ouais. Et par exemple, je sais que vous intervenez à l'Hôtel de la Marine, tous les combien ?
Tous les derniers vendredis du mois, de 17h30 à 20h30, nous donnons un bal sur un thème différent. Donc le prochain sera en mars et il aura pour thème les années folles. Et là, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que le Centre des Monuments Nationaux comptabilise 3000 personnes qui passent dans la soirée.
Ah, c'est génial.
C'est énorme.
C'est ouvert au grand public.
Alors, les trois quarts sont ouverts au grand public. Il y a une part démonstration d'excellence qui sont dans les salons et qui sont inscrits dans le parcours de visite. Donc, il vous faudra un billet pour voir la totalité. Mais sinon, les trois quarts du divertissement, vous pouvez le faire dans la cour d'honneur de manière absolument gratuite.
Mais alors, pourquoi s'intéresser au bal historique aujourd'hui ?
Ah bien, c'est le moment de s'y intéresser parce que c'est le moment où, j'en suis persuadé, la société est en train de changer. Nous sommes au moment où cette jeunesse, où ces personnes recherchent leurs valeurs, recherchent à vivre ensemble, recherchent à pratiquer la danse ensemble. Et c'est également un moment où la culture française, on s'interroge, d'où vient-on, que fait-on, qu'est-ce que c'est réellement ? Et le bal, c'est absolument l'apanage de la culture à la française. Vous y voyez absolument tout. Vous y voyez la tenue, la bienséance, le costume, la musique, la beauté du lieu, la danse et souvent le repas qui va avec. Vous avez un art total complet dans un bal qui est absolument inévitable et qui a le vent en poupe maintenant.
Alors justement, vous parliez de costumes. Vous réalisez vous-même vos propres costumes, fidèles
Tout à fait.
Voilà, vraiment, vous avez une rigueur qui est assez incroyable.
Oui, nous avons cette chance, comme nous sommes très nombreux, d'avoir des ateliers de couture qui tournent toutes les semaines, qui nous permet de fabriquer les costumes pour les démonstrations, pour les bals, pour les prestations, pour tout, et sur lesquels nous essayons d'être le plus proche de la réalité, parce que le costume intime également la danse. Typiquement, la robe à crinoline que l'impératrice Eugénie va créer, sans elle, la valse n'aurait jamais eu cette ampleur. C'est quelque chose de rond, quelque chose de creux, quelque chose de très léger qui permet de tourner, de virevolter. Les volants se soulèvent, c'est absolument charmant. On n'aurait pas eu le déploiement de la valse sans la crinoline. Donc c'est vraiment intimement lié à la façon de se tenir, à la façon de se comporter et à la relation à l'autre. C'est la relation que l'on a par rapport à soi, par rapport à son corps et par rapport à l'individu qui est face à nous.
Oui. Alors vous poussez le bouchon un peu loin puisque vous allez jusqu'à réaliser, à refaire des bals qui n'ont été dansés qu'une fois, comme le bal des ifs par exemple.
Totalement, totalement. Le bal des ifs ou encore le quadrille des abeilles, ou, ce sont des choses qui sont restées dans la culture française comme des seuls moments uniques. Et nous avons eu la chance de le refaire, et en particulier le bal des ifs, nous l'avons refait comme à l'époque, c'est-à-dire...
Avec les costumes et tout et tout.
Avec les costumes et dans la galerie des glaces de Versailles, ça a été incroyable.
Ah génial. Alors vous pouvez nous raconter peut-être l'histoire, la genèse de ce fameux bal
sur
Louis XV.
Il ne faut pas. Mais nous sommes là sur le mariage du futur Louis XVI, du dauphin, pardon. Et ce soir-là, Louis XV est follement amoureux de Madame de Pompadour, mais il n'ose pas lui déclarer sa flamme. Donc il organise pour les fiançailles du dauphin un bal costumé où chacun vient costumé. Alors c'est, à l'époque, on n'aurait pas dit costumé, on aurait dit travesti. Hein. Se travestir, c'est se costumer
oui,
en autre
sûr.
Chose. Et donc le roi décide de se costumer en nif et il demande à 7 autres personnes de la cour, 7 autres hommes, de se costumer eux-mêmes en nif. Et là, on voit arriver, et on a refait cela, des costumes qui font quasiment 3 mètres de haut, des ifs avec des têtes, avec des choses qui balancent, et cachées dans
comme
cette...
Comme des ifs de jardin.
Tout à fait.
Voilà.
On ne reconnaît pas le roi. On ne sait pas lequel il est.
Quel des ifs est le roi.
Et, oui. Ouais. Et donc, ils vont danser à 8 hommes une contredanse qui fait changer de place continuellement, ce qui bien qu'à la fin de la danse, les cavaliers ont tellement changé de place qu'on ne sait plus reconnaître exactement comme un jeu de bonto où est le roi. Et à la fin de cette contredanse, il y a un des ifs qui se présente à Madame de Pompadour et qui va lui déclarer sa flamme et se retirer. Et Madame de Pompadour ne sait pas qui est la personne.
Le Zif, voilà, lui a déclaré. Lui a déclaré. Ouais, extraordinaire.
Et on lui dira le lendemain que la Zif en question
était le roi.
Et oui.
Extraordinaire. Ouais, c'est une histoire très amusante. Alors, pas morale, mais très amusante. Voilà. Qui participe à vos événements?
Absolument.
Quel est votre
tout
public?
Oui. Absolument tout le monde. Que vous sachiez danser ou non, c'est vraiment intergénérationnel. On l'a dit, ça va pour les jeunes comme les personnes moins jeunes. Et tout le monde trouve son compte parce qu'il y a des danses rapides comme des danses moins rapides, des danses de société, des danses contre-danses comme des danses de couple. Mais également, quel que soit son, comme à l'époque, son statut social. Vraiment, le plaisir de danser, il n'y a aucun souci. Vous venez, vous vous conformez à la pratique. Même si vous ne savez pas danser, on vous explique quelque peu. Et puis un petit moment après, vous avez pris part à cette société qui s'est transformée, qui vous a vous-même transformé. Et donc tout le monde peut prendre part à ces bals. Et tout le monde doit prendre part à ces bals. C'est un manque incroyable dans son existence de ne pas danser, de ne pas faire partie de cette société.
Alors, justement, plutôt que vous poser la question à la fin de notre conversation, je vous propose de vous la poser dès à présent et de vous la reposer à la fin. Peut-être nous donner des coordonnées pour ceux qui voudront en savoir plus ou vous rejoindre.
C'est très gentil. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, carnet de bal, carnetdebals, ns à bal et pas à carnet.com. Et là, vous retrouverez toutes les informations et notre adresse de contact aussi, contact@carnetdebal.com. Et là, bien sûr, on vous répondra et on vous accueillera et on vous invitera au prochain bal.
Donc, carnet de bal avec un S et en plus, vous serez invité. Donc, écoutez, quelle chance. Y a-t-il un âge?
Ah, aucun. Aucun, aucun.
De 7
aucun.
À 77?
Exact, au même plus. Notre doyenne en a 93.
Ah oui?
Oui, elle est merveilleuse. Notre doyenne a 93 ans. Elle était née en plus à Cuba, elle a dansé de la samba toute sa vie. Elle était conférencière au musée d'Orsay, elle a une culture incroyable. Et elle adore danser, et elle danse de manière plus limitée, mais elle danse toujours avec nous, avec un bonheur incroyable.
Ah, je crois que je vois qui est cette fameuse personne.
Eh oui.
Et plus jeune?
Ah, alors le plus jeune, c'est un peu difficile avant 7 ans quand même,
oui.
Il faut être franc. Donc, 7 ans, c'est...
D'accord, mais je veux dire, des enfants peuvent venir chez vous.
Les plus jeunes que nous ayons eus et qui aient suivi nos cours et qui se présentent après, vous savez qu'on organise le championnat de France chaque année,
oui.
C'est 12 ans.
12 ans, donc voilà, très bien. Donc les parents voilà, qui nous écoutent savent qu'ils peuvent mettre vos enfants.
Dès 12 ans, ils peuvent venir apprendre la valse et le quadrille, il n'y a pas de souci.
Et en toute sécurité.
Absolument.
Puisque vos répétitions se passent.
Alors souvent, enfin généralement.
Rue Falguière.
Rue Falguière ou gymnase Saint-Lambert ou gymnase Buffault sont dans des gymnases municipaux que la mairie nous met à disposition pour cette pratique-là et qui sont parfaitement bien encadrés.
Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Pour avoir été à celui de Rue Falguière.
Tout à fait.
Voilà, dans un endroit fermé, religieux en plus.
Tout à fait.
Voilà, qui appartient à l'évêché.
Alors celui-ci, c'est l'exception. Rue Falguière, ça appartient à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle.
Oui. Je voulais également que vous nous disiez ce que disent justement, vous me direz, ça fait un peu redite, c'est pas grave, ce que disent les bals sur la société française.
Ah bien, c'est une photo de la société. Un bal, c'est un microcosme qui va tourner, qui va montrer comment les gens se comportent, ne serait-ce que dans l'acceptation de l'autre, ou dans l'acceptation de soi, de l'acceptation de son propre corps, de sa façon dont on a envie de le représenter. Et lorsque les gens dansent, ben, quelque part, la société va bien. Et quelque part, on se représente un bonheur passager. Donc votre bal est une photo de cette société.
Alors Arnaud de Joigny, vous, pour ceux qui viendraient de nous retrouver, vous êtes le président de Carnet de Bal et vous êtes en train de nous dire que la société finalement évolue dans le bon sens alors.
À l'heure actuelle, j'ai l'impression, oui. En tout cas au niveau de la danse, j'en ai cette perception sur Paris d'avoir un succès fou sur cette reprise de ces bals. Et quelque chose, quand on le fait à Paris, après ça se généralise partout, donc ça va finir par le faire. Nous sommes vraiment sur une mutation de la perception de l'envie de danser. Vous l'avez sur les réseaux sociaux, le nombre d'influenceurs qui, à l'heure actuelle, expliquent qu'ils vont au bal, qu'ils ont envie de le faire, qu'il faut trouver sa robe, qu'ils vont se préparer. C'est un phénomène
oui,
de société.
J'avoue que ça, c'est assez amusant. Pour moi, ça, c'est très nouveau et très amusant. Et ce sont des jeunes femmes.
Tout à fait.
Très amusant. Bon.
Et qui se présentent au bal sans avoir dansé et qui disent « Je veux avoir une vidéo avec vous en train de danser, s'il vous plaît. » Ça fonctionne.
Oui. Bon, parfois, il faut leur apprendre un peu
voilà,
la courtoisie, mais bon. Voilà.
Oui.
Oui, parce qu'il y a des influenceurs qui s'imposent un peu parfois.
Hein, ouais, je veux danser maintenant.
Ouais.
J'ai eu droit à ça au dernier bal, c'est assez terrible.
Oui, je ne suis pas étonné. Quels sont les bals finalement à la mode?
Ah, alors on a de la chance, hein, les bals de carnet de bal sont à la mode. Hein,
oui.
Ça, nous faisons carton plein, c'est-à-dire que...
Versailles, c'est
voilà. Versailles, c'est plein dans les 15 minutes qui suivent, mais c'est l'effet de Versailles. Mais vous avez eu ça, typiquement, on a donné un bal à l'hôtel de la Monnaie, bal Marie-Antoinette en septembre dernier. L'hôtel était un petit peu, la Monnaie était un petit peu réticente en disant, est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée que nous le fassions? Nous dansons toujours à guichet fermé. Nous avons cette chance, dès qu'on annonce quelque part un bal, on a fait ça à la Monnaie, on fait ça au château de la Motille, qui est un château magnifique, hein, qui est un petit peu loin de tout. On a fait un bal il y a un mois, l'administrateur s'inquiétait, nous sommes venus danser, il était impossible de rentrer le jour même au bal. Les bals sont pleins, les bals de carnet de bal annoncés fonctionnent.
Alors justement, le prochain grand bal de carnet de bal aura lieu.
Chez vous, cher ami.
Ah non, oui, alors chez moi, mais certes, mais moi je parle du vôtre.
Ah, le mien, alors...
Puisque, voilà, notre émission est au mois de mars, donc le prochain événement...
Nous avons déjà eu le plaisir de vivre le vôtre. Le mien, enfin vraiment en nom propre, parce que donc Carnet de Bal fait beaucoup de bals.
Bien sûr.
Celui que nous organisons pour nous-mêmes aura lieu le 17 juillet.
Où ça?
À Salvagram.
Ah,
juste à
magnifique,
côté,
très grande salle.
Immense salle, à côté, et qui est une salle de bal typiquement Second Empire dans un décor somptueux, juste à côté de l'Arc de Triomphe. Et oui, nous allons
avoir
la chance.
Donnez-nous plus d'informations, s'il vous plaît, sur cette soirée. Chers auditeurs, vous êtes tous conviés à assister en tant que spectateur ou acteur.
Ah non, il n'y a pas de spectateur chez nous.
Ah bon?
Vous venez, vous dansez, vous êtes
forcément... Oui, mais alors je ne sais pas danser.
Ah ben, il n'y a aucun souci, vu qu'il y a un tiers de nos danses qui sont des danses d'animation. Même si vous ne savez pas danser, à partir du moment où vous comptez jusqu'à 8, on vous fera danser. Et c'est cela. Et les gens arrivent avec une grande réticence. Souvent, j'ai un monsieur qui arrive, qui me dit « je ne sais pas danser ». Je lui dis « allez-y, montez ». Et puis, un quart d'heure après, vous le retrouvez en train de danser. Il dit « c'est merveilleux, je danse ».
Oui, ça je l'ai vécu.
Eh oui.
Mais forcez la main violemment.
Mais ça fonctionne tellement bien. Mais
chers auditeurs, oui, c'est un vrai bonheur. C'est vrai que c'est très amusant. Il y a une appréhension,
et
bien
oui,
entendu.
Et qu'il faut dépasser parce que c'est un gâchis énorme.
C'est très amusant.
On a cette chance avec la danse historique, c'est que tous les hommes font la même chose en même temps. Donc c'est déjà très décomplexant. Si vous n'êtes pas en train de faire un solo, ou même les solos que l'on impose chez nous sont les mêmes pour tout le monde. Donc les hommes font exactement... C'est décomplexant. Si vous êtes perdu, il vous suffit de regarder le monsieur qui a devant ou derrière, vous refaites la même chose, c'est parti.
Arnaud de Joigny, président de Carnet de Bal, rappelez-nous s'il vous plaît la date de votre bal.
Le 17 juillet, Salvagram à Paris.
Salvagram à Paris. Je veux pouvoir m'inscrire, je fais comment?
Vous allez sur le site internet, vous retrouvez Grand Bal, vous retrouverez toutes les informations.
Carnet de bal, Grand Bal, il apparaîtra bien
directement,
détaché par rapport aux nombreux autres que vous animez.
Tout à fait.
Parfait. Donc, Grand Bal, le 17 juillet, chers auditeurs, dans cette fameuse salle Salvagram, voilà, typiquement Second Empire.
Tout à fait.
Voilà, et vous pouvez venir, y a-t-il un tarif?
Ah oui.
Mais bien sûr, c'est normal, la location de la salle.
La location de la salle, nous sommes à 150 euros pour la soirée.
Bon, écoutez, vous passez jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 3h du matin.
Bon, ça vaut le coup. Hein.
Oui.
Là, pour le coup, c'est, voilà, votre
ticket
rentabilisé. C'est 19h,
3h du matin.
19h, 3h du matin.
Ouais.
Voilà, on peut boire?
Oui, tout à fait.
Bon, parfait. Écoutez, et mangez un petit peu?
Alors, c'est champagne à volonté chez nous.
C'est vrai?
Oui.
Wow.
C'est une tradition de l'époque. C'est typiquement Second Empire. Avant, vous savez qu'il était très très difficile sous l'Ancien Régime de boire du champagne.
Oui.
Parce que c'est assez triste à dire, mais les barrières d'octroi sous l'Ancien Régime facturaient au contenant.
Ah.
Donc quand vous arriviez avec vos bouteilles de champagne,
bah, oui,
vous vidiez les bouteilles de champagne dans des tonneaux,
oui,
vous passiez la barrière d'octroi et vous re-remplissiez vos bouteilles de champagne. Donc, vous perdiez un petit peu du gaz. Et donc, ouais, le champagne à l'intérieur de Paris n'était pas terrible, terrible. Sous le Second Empire, ça fait un petit moment, sous le Premier Empire déjà, que la barrière d'octroi est détruite.
Ouais.
Et résultat des courses, on commence vraiment à apprécier le champagne à Paris. Donc, on avait du champagne avant, mais toujours à l'extérieur de Paris. Et on a gardé donc cette tradition de toujours avec modération, et puis il ne faut pas boire du champagne, et puis etc. Bien sûr, mais de boire du champagne dans les balles.
Bon, alors c'est merveilleux ça. Donc, le 17 juillet, je peux venir, pour 150 euros, j'ai le droit à du champagne à volonté
et
de la danse à volonté.
Tout à fait.
Extraordinaire, même si je ne sais pas danser.
Tout à fait. Et il faut être costumé. C'est la consigne.
C'est la consigne, très bien. Et les costumes, je peux les trouver chez vous?
On en loue également, mais sur Paris, vous avez beaucoup de loueurs qui font des robes de bal Second Empire.
Oui, on a voyage au 19e et qui on travaille, c'est bien.
Tout à fait.
Bien. Voilà. Et chez vous, je ne savais pas que vous vous en louiez.
Ah, si, si.
Bon, alors, chers auditeurs, vous voyez, vous avez tout clé en main. Et je fais comment? Je trouve sur votre site internet, pareil?
Totalement.
Ah, excellent. Très, très bien. Bon, bah, écoutez, voilà, on fera la promotion également la prochaine fois. À quoi ressemble un bal que vous organisez habituellement?
Ah, un grand moment de fête. On y tient absolument. Et quelles que soient les époques. Encore une fois, on a de la chance, hein, nous sommes français, nous avons un patrimoine français qui est phénoménal, quelles que soient les époques que vous allez décider de reconstituer.
Oui.
Vous avez un moment de folie, un moment de fête, un moment de divertissement qui est terrible. Donc, à quoi ça ressemble? Un moment de fête, un moment de liberté, un moment de divertissement en premier. Ensuite, donc, vous arrivez, vous allez avoir souvent un verre d'accueil et puis quelques petites milliardises. Et puis ensuite, une marche d'ouverture pour faire marcher tout le monde en même temps et tout le monde rentre dans la danse. La tradition oblige, nous faisons un quadrille français en ouverture. Et puis ensuite, vont s'alterner danse libre, danse de couple, danse d'animation, danse libre, danse de couple, danse d'animation, et ainsi de suite pendant toute la soirée.
Alors moi, je suis, mettons, plus intéressé par les bals du Second Empire que de l'Ancien Régime. Y a-t-il, la période, mettons, de Louis XVI, comment ça se passe, comment ça s'organise chez vous à ce niveau-là? Est-ce qu'on apprend tout? On apprend juste une période en particulier? On apprend des danses en particulier? Comment ça se passe?
Alors chez nous, on apprend prioritairement du Second Empire et du 1900.
Oui.
Pour la simple raison que c'est ce que je vous disais, le moment de la démocratisation de la danse. Donc
oui,
c'est le moment où c'est le plus facile, c'est le plus simple. Le tempo, la musique, tout est fait pour absorber, pour embrigader du monde et faire une fête. Ensuite, nous donnons des cours spécifiques. Et oui, vous allez donc trouver des cours d'Ancien Régime, des cours Renaissance, vous allez trouver des cours à l'année 30, vous allez trouver des cours de contredanse, et vous allez pouvoir vous spécialiser en plus sur d'autres types de danses qui sont pas plus exigeantes, mais qui sont totalement différentes et dont nous avons là encore plus perdu les codes.
Alors, ce que j'ai observé dans parmi vos membres, il y a beaucoup d'étrangers, enfin, ou de personnes originaires de pays étrangers qui sont peut-être français maintenant.
Oui, oui.
Mais c'est incroyable. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement de la part des étrangers ?
Mais c'est ce que je vous disais.
C'est l'image de la France,
c'est l'image
d'autrefois, qui fait rêver.
C'est ça. Ouais. Et alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Je vais mal le prononcer, mais je crois que c'est le syndrome chinois, mais je suis pas bon.
Ouais.
Ou japonais, je ne sais plus. C'est le syndrome que vivent malheureusement des touristes asiatiques qui ont absolument fantasmé l'image de la France, viennent découvrir Paris et qui découvrent la capitale avec ses travaux, ses sens uniques, etc. Et son absence de fête, soyons francs, son absence de fête que l'on trouve à Paris, hein, et qui rentrent chez eux et qui font une dépression nerveuse parce qu'ils font un burn-out de découvrir ce qu'était leur rêve, qu'ils ont fantasmé, ils ont économisé toute leur vie pour venir faire ça, et qui rentrent chez nous, qui rentrent chez eux avec une mauvaise image. Et finalement, à Carnet de Bâle, on continue à fabriquer ce rêve permanent qui était l'image de cette société parisienne. Une société élégante, qui s'amuse, qui fait la fête, qui connaît ses codes, qui se tient, qui sait se comporter.
Alors, nos chers amis touristes qui nous écouteraient par hasard sur Radio Courtoisie...
Ah oui, n'hésitez pas à venir.
À Arnaud de Joigny, nous sommes le 24 mars. Eh bien, nous vous proposons de nous retrouver, allez, dans 4 mois, mois de juillet.
Tout à fait.
17 juillet, c'est ça ?
Exactement.
17 juillet, Carnet de bal réalise un bal, réalise et anime un bal magnifique. Donc, il a un nom, ce bal ?
Alors cette année, nous sommes en 2026, c'est les 200 ans de la naissance de l'impératrice Eugénie, qui est un symbole à la fois de mode, de fête, de grâce, de tout ce que vous voulez, de catholicisme, d'une image à la française incroyable. Donc nous ne pouvions pas faire autrement que de lui dédier ce bal, et donc ça sera le bal de jubilé de Sa Majesté l'impératrice que nous donnons le 17 juillet.
Dans la salle Wagram.
Tout à fait.
Grande salle Wagram. Il y aura assez de place pour tout le monde ?
Nous prévoyons 2000 mètres carrés quand même. Hein.
Ah oui, d'accord, mais enfin bon. Vaut mieux s'inscrire maintenant.
Tout à fait. Et dans 3 jours, vous aurez absolument gratuit à venir essayer un bal année 30, vendredi 27, à l'hôtel de la Marine. Donc, ce sera dans un thème totalement différent, mais les années folles sont incroyables. On va pouvoir faire la danse des bananes, j'adore ça. On va pouvoir faire des hérons.
C'est rigolo, ça.
Nous n'avons plus de bananes, c'est un des grands succès. Des choses absolument incroyables dans la cour de l'hôtel de la Marine. Donc, si vous hésitez à venir le 17 juillet parce qu'il y a un tarif, etc., que vous ne savez pas faire, venez déjà essayer
en
spectateur, en danseur. Vous venez sur les bords et puis au bout de 2 minutes, je suis certain que vous serez sur la piste avec nous.
Donc ça, c'est le
27 mars à
l'hôtel de la Marine,
place
de la Concorde.
Parfait.
Tout à fait. Place Louis XV.
Voilà. Oui, place Louis XV.
Oui.
Alors, cependant, si vous attendez avril, vous aurez un bal Louis XV à ce moment-là, la balle de la Marine.
Ah, ça va être joli, ça, avec les costumes qui vont avec.
Oui, oui.
Alors, donnez-nous quelques dates, là, justement, qu'on prenne. Alors, chers auditeurs, prenez votre papier, un crayon.
Il y a trop de dates, nous sortons tous les week-ends.
Allez, quelques beaux rendez-vous.
Vous avez tous les derniers vendredis du mois un bal de thème différent à l'hôtel La Marine. Vous allez avoir toutes les dates qui nous arrivent entre Trianon, Versailles, qui arrive au château de Versailles. Vous allez avoir un bal Marie-Antoinette à Fontainebleau, qui est fin mai. Vous allez avoir un week-end complet au château de Pierrefonds, également. Je crois que là, c'est fin juin. Vous allez avoir le week-end complet habituel que nous donnons à Vichy. Et là, vous avez une immersion pendant 3 jours en tenue Second Empire, avec des bals, avec des festivités. Vous avez absolument tous les week-ends quelque chose à faire.
Alors, et sachant qu'en plus, vous l'avez bien expliqué, il y a des bals qui sont absolument gratuits pour ceux qui voudraient aller
découvrir.
C'est notre juste découvrir.
Tout à
voilà.
fait. Tout à fait, tout à fait.
Découvrir. Donc, le premier rendez-vous, c'est le 27.
Tout à fait.
Bal de la Marine.
Vous venez tel que
la Marine. Voilà. Et venez, et là, vous aurez un bal 1920.
Ou 1930, mais
1930.
Il y aura un petit peu de 1920 aussi.
Oui. 1930, après le mois suivant, hôtel de la Marine.
Louis XV.
Louis XV.
Le suivant, je crois qu'il est Belle Époque, et le suivant encore doit être Second Empire.
Parfait. Et puis, le grand bal du 17 juillet. C'est important de le rappeler. Le 17 juillet, champagne en plus à volonté, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, je viens noter ça, faut pas me le dire deux fois. Donc, salle Wagram à Paris, et pour ceux qui voudront en savoir plus, pouvoir s'inscrire, louer des costumes, puisque vous avez des robes, des costumes, vous avez tout ce qu'il faut. Et l'adresse, c'est carnet de balle, pardon, je suis fatigué moi, carnetdeballe.fr ou .com
.com.
Carnetdeballe.com.
Avec un S à balle.
Carnet de balle avec un S.com. Vous avez bien noté ça, chers auditeurs. Alors, mon cher Arnaud, Quelles sont, je voudrais bien que vous nous racontiez une ou deux petites anecdotes qui vous sont arrivées pendant vos bals, parce que je suppose évidemment qu'il doit arriver parfois des choses assez plutôt amusantes, plutôt cocasses. Et voilà, j'aimerais bien que vous nous racontiez au moins une ou deux anecdotes qui vous sont arrivées.
Ah, moi personnellement, oh, est-ce que cela, vous croyez ? Alors, il y a tellement d'anecdotes qui nous sont arrivées dans le passé qui sont incroyables. Et comme c'est son anniversaire, est-ce que je vous relate le fait que l'impératrice Eugénie, qui aime tellement danser, qui va faire l'ascension du Puy de Dôme, une femme exceptionnelle, vous l'imaginez en crinoline de cour, quelque chose de bien établi. Alors même si c'est un peu plus allégé parce qu'elle était à la campagne en déplacement, qui va faire l'ascension du Puy de Dôme. Et arrivé là-haut, il y a toutes ces dames de compagnie qui sont à la traîne, qui sont en train de souffrir derrière, et qui la rejoignent finalement. Et elle est tellement heureuse d'avoir fait l'ascension toute seule, d'être arrivée là-haut, qu'elle va se mettre à danser la tarentelle seule, tout en haut du Puy de Dôme, juste après l'ascension.
Incroyable.
C'est assez incroyable. Oui, ou alors vous avez...
Et son costume était exposé, figurez-vous, au musée des arts décoratifs, juste avant les Jeux Olympiques. Il y avait une exposition de costumes. Et il y avait le costume de sport, enfin de
d'ascension.
Sport, entre guillemets, d'ascension de l'impératrice Eugénie, dans une grande vitrine, ouais. Voilà, je me rappelle.
Elle, incroyable, elle a traversé la mer de glace... dans les Alpes, elle a traversé
le
désert d'Égypte à dos de dromadaires ou de chameaux.
C'était une baroudeuse.
C'était une femme incroyable.
Alors, première belle anecdote, une deuxième.
Oh, laquelle voulez-vous ? Oh, je ne sais pas. Ah, mon Dieu, vous me perdez. Mais j'aime beaucoup le fait que... il faut imaginer la pression sociale pour aller au bal. Une envie d'être là parce qu'il faut faire la fête. Et vous avez, dans la salle de bal de la mairie de Paris, une salle de bal dont je vais être très mauvais parce que je n'ai plus la contenance de sécurité actuelle, mais je crois qu'elle est à 600 personnes. Si vous allez faire une réception à l'hôtel de la mairie,
bien ça, oui.
Vous devez avoir
une jauge
à 600 personnes.
Oui.
À l'époque, dans cette salle, qui n'a pas changé, bon, elle a brûlé, elle a été reconstruite, mais sur les mêmes proportions, le baron Haussmann donnait des bals à 3000 personnes. Donc il faut imaginer la pression à l'intérieur. Et tout le monde devait danser ensemble. Et la comtesse de Castiglione racontait justement qu'un bal réussi, c'était un bal, madame, dont vous rentriez la robe déchirée. Il y avait tellement de monde que vous aviez déchiré votre robe. Et c'était tellement terrible. Alors, je ne supporte pas, sachez-le, chers auditeurs, le changement de sens des rues de la ville de Paris. Mais il y a quelque chose que j'adore, c'est que la rue de Rivoli, pour les soirs de bal du baron Haussmann, changeait de sens pendant la soirée. C'est-à-dire que, en début de soirée, vous pouviez circuler avec votre carrosse depuis la place de la Concorde en remontant la rue de Rivoli pour aller au bal. Et en milieu de soirée, on faisait changer le sens de circulation de la rue pour que les invités puissent repartir sereinement en allant de l'hôtel de ville jusqu'à la place de la Concorde.
Extraordinaire.
C'est extraordinaire. C'est une époque qui est incroyable.
Ouais, et ça, ça avait lieu tous les...
Alors, les grands bals...
Du baron Haussmann,
elle n'a pas eu tant que cela. On parle de trois grands bals par hiver.
Par hiver. Oh, c'est extraordinaire.
Oui.
Et il se passait toujours à l'hôtel de ville.
Ceux du baron Haussmann, oui.
Ouais. De toute façon, il n'y a pas 36 000 grandes salles dans Paris.
Alors maintenant, il n'y en a plus parce qu'on a tout rasé, mais on se dit bien qu'à l'époque, vous pouviez traverser la capitale en passant de bal en bal, en prêtant les soirs de carnaval que vous pouviez traverser 300 bals en même, le même soir dans la capitale. Vous avez, dans mes grands regrets, sous Pompidou, on s'est retrouvé à raser des hôtels particuliers. L'hôtel particulier du Prince Murat, qui était Place Monceau, on prétend, je ne l'ai jamais vu malheureusement, qu'il avait une salle de bal de 600 mètres carrés dans son hôtel particulier personnel et que l'hôtel a été rasé sous Pompidou. Vous aviez le fameux Palais Rose.
Oui, le Palais Rose qui était joli.
Avec sa grande salle de bal. Donc, vous aviez des salles de bal absolument dans tout Paris. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qui nous empêche de faire la fête, c'est la pression foncière. Malheureusement, il y a une limitation folle. Quand on veut louer une salle, ça devient...
Les prix deviennent complètement fous.
Complètement exubérants.
Oui. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais on peut en profiter le 17 juillet.
Tout à fait.
17 juillet, je le rappelle, chers auditeurs, carnetdebal.fr. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour passer une belle soirée Avec du champagne à volonté.
Mais toujours avec modération.
Oui, bien sûr, bien sûr. Au bout de son, on a le temps hein, pendant toute la soirée, jusqu'à 5h du matin en plus.
3 heures,
ça, c'est déjà bien. Hein. Dans Paris, c'est génial.
Ça va avec la pression, la pression foncière.
Oui, mais oui. De toute façon, déjà jusqu'à 3h du matin, c'est déjà beaucoup. Et là, vous attendez combien de participants?
J'imagine que nous serons 400. Hein.
Oui.
Alors nous avons déjà toute une population américaine qui est inscrite et qui a prévu son voyage.
Génial.
Oui, parce que ce bal en fait clôt une semaine internationale que nous donnons. Il y aura une semaine de cours complet que nous donnons à la mairie du 15e dans cette salle de bal qui est incroyable.
Ouais.
Et nous aurons des Américains et beaucoup de personnes de l'Est qui aiment danser qui viendront pendant une semaine prendre des cours à Paris et qui finiront leur semaine avec ce grand bal.
Mais alors du coup vous n'arrêtez pas ?
Nous n'arrêtons pas.
Vous vivez, pensez carnet de bal.
Exactement.
Extraordinaire.
C'est une chance exceptionnelle.
Et votre épouse et votre fils?
Ah ben les pauvres, ils sont embrigadés dans l'aventure de force.
De force, voilà. C'est extraordinaire. Et est-ce que l'on apprécie beaucoup chez vous? Vous avez une réputation d'être quelqu'un de très rigoureux. Voilà.
On essaye.
Et ce qui fait qu'on a une qualité de bal qui va avec.
Alors rigoureux tout en étant, j'espère, agréable, et ce qui fait que ça fonctionne.
Ouais. Mais il y a une rigueur historique qui est indiscutable. Donc ça veut dire que, chers auditeurs, si vous participez, si vous assistez à un bal, le carnet de bal, dites-vous bien qu'il n'y a pas de fantaisie historique prise, de liberté prise. C'est vraiment ainsi que ça se passait autrefois.
Et que nous essayons de refaire vivre comme si c'était autrefois.
Absolument. Mon cher Arnaud de Joigny, donc le rendez-vous est pris pour le 17 juillet, donc tous les ans, vous avez le grand bal, carnet de bal?
Tout à fait, tout à fait.
17 juillet, Salvagram, je suppose qu'en plus, le coût de location doit être quand même assez conséquent pour une grande salle comme ça.
Tout à fait.
Donc il va falloir la remplir, donc nous comptons sur vous, chers auditeurs, pour nous aider à faire vivre le beau, à faire revivre le beau et l'intelligent. Donc carnetdebal.fr, où vous trouverez un grand nombre d'informations.
Et vous allez avoir là une salle, c'est à la fois très triste et incroyable, sur la grandeur de notre culture, notre savoir-faire. Il faut savoir que cette salle de bal qui est absolument somptueuse, allez sur internet, vous tapez salle de bal à Salvagram, vous avez une salle avec une coursive, des grands lustres en cristal, c'est rouge, bordeaux comme on sait faire, avec plein de dorures or, c'est grandiose. Et bien à l'époque, ce n'était pas une salle de bal, c'est une salle de boxe.
Non.
Si, sous le Second
Empire. Incroyable.
Oui, c'est somptueux.
Attends, je regarde tout de suite.
C'est somptueux et se dire qu'à l'époque, la salle de bal était deux fois plus grande et elle était devant. Malheureusement, elle a été rasée pour en faire un hôtel.
Oh non.
C'est un gâchis énorme. Mais ce qui a été sauvegardé, et heureusement, parce que c'était une salle de boxe, et pour nos plus anciens, c'est là où Marcel Cerdan jouait à l'époque, combattait à l'époque.
Oui.
C'est une salle de sport qui a...
Quand même.
C'est somptueux. Imaginez la grandeur de la société de laquelle nous venons pour que les salles de sport ressemblent à cela.
Mais pareil, avec deux niveaux, etc.
Et oui, c'était pour les coursives servent aux spectateurs pour voir le match de boxe.
Incroyable.
C'est magnifique. Hein.
Ouais, incroyable. Donc cette salle, oui, vraiment très amusante. Ah ben voilà. Du coup, hop, on connaît d'autres qui veulent voir absolument la salle. Donc, chers auditeurs, si vous voulez vous faire plaisir, le 17 juillet, si vous êtes à Paris, ce sera l'événement parisien par excellence. Vous pourrez boire du champagne en plus à volonté. Salvagram, carnetdebal.fr, où vous pourrez même louer votre costume. Bah écoutez, bravo Arnaud de Joigny d'organiser tout ça.
Merci à vous de me recevoir, cher ami.
Et
vous également de le faire, hein, parce que je sais que nous aurons rendez-vous prochainement également. Alors, mon Dieu, j'ai plus la tête si c'est en octobre ou en novembre. Donc, vous donnez deux balles par an vous-même.
Quelle date je me tourne au mois de c'est novembre. Je ne sais plus.
Le grand bal du 7e art, cher ami.
Le bal du 7e art. Alors... Le 7e art,
et alors,
le grand bal du 7e.
Qui a lieu dans cette salle intercontinentale.
Le 6 novembre.
Le 6 novembre. Et le 6 novembre, nous serons dans cette salle. Alors, je vous parlais de la salle Vagram, mais quand vous prenez la salle intercontinentale, elle a été inaugurée par l'impératrice Eugénie, toujours.
Oui.
Et l'impératrice Eugénie, qui avait une chance folle, elle habitait aux Tuileries, que nous avons malheureusement laissé détruire, qui était certainement le plus beau palais du monde et sans équivalent. Même Versailles ne devait pas être aussi beau que n'a été
l'intérieur.
Le palais des Tuileries.
Ah oui.
Et quand l'impératrice a inauguré la salle où nous dansons pour votre bal, l'impératrice a déclaré c'est merveilleux, je me crois à la maison.
Ouais.
Donc la salle intercontinentale, c'est je ne sais quelle hauteur sous plafond, ce sont des cariatides au deuxième étage qui nous regardent, qui cachent des portes en miroir, enfin, c'est absolument somptueux, c'est vraiment un cadre absolument féerique.
Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que ce salon opéra a été fait en un an et demi.
En un an et demi.
Ouais. Ouais, l'ensemble de l'hôtel a été réalisé en un an et demi.
Quelle époque.
Et oui, maintenant, on met un grand moment pour ne serait-ce que restaurer la cathédrale Notre-Dame, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Mon cher Arnaud de Joigny, donc, pour les personnes qui voudraient suivre vos cours, pareil, ils trouveront toutes les informations sur votre site internet,
Carnet de Bal. Et nous donnons des cours tous les soirs. Nous avons quasiment deux sessions par soirée, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le samedi, généralement, on fait des répétitions. Et le dimanche, vous avez 8 à 12 heures de stage. Donc, vous trouverez votre bonheur, que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, que vous ayez envie de faire du Second Empire, de la contredanse, de la Renaissance. Vous retrouvez absolument de tout chez nous. Ou même des cours de couture, pour information.
Ah oui, extraordinaire. Et pour tous les âges.
Totalement, totalement.
De 7, non, on a dit de 12 en vrai à 93.
93.
Ah bon, laissons lui encore une année. Donc, de 7 à 94.
Ah non, sans fin. C'est merveilleux.
Voilà. Écoutez, c'est absolument merveilleux. Merci beaucoup Arnaud de Joigny, président de l'association Carnet de Bal, carnetdebal.fr. Et je rappelle encore une dernière fois ce fameux bal. En plus de ceux que vous animez régulièrement, le 17 juillet, salle Wagram, jusqu'à 3 heures du matin, vous allez pouvoir danser en costume. Vous plongez dans l'époque du Second Empire en évoquant l'impératrice Eugénie, évidemment avec beaucoup de rigueur, comme vous en avez l'habitude, pour en avoir plein les yeux, tout simplement.
Mais tout à fait. Merci infiniment.
Merci beaucoup Arnaud de Joigny et à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, chers auditeurs, vous pouvez déjà en avoir un aperçu à l'Hôtel de la Marine.
À vendredi.
Merci, à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la vie française dirigé par Laurent Poultier du Ménil. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 19 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.